Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Poème rassemble les textes versifiés d'Edgar Allan Poe, figure majeure du romantisme américain et de l'imaginaire gothique du 19e siècle. Cette œuvre ne se réduit pas à une succession de pièces lugubres, elle organise une expérience de la perte par le rythme, la reprise sonore. Les images d'espace irréel et une parole souvent enfermée dans sa propre obsession. Les poèmes les plus célèbres, notamment Le Corbeau, Annabel Lee, Les Cloches. Ulalume ou La Cité dans la mer donnent une place centrale à la mort, aux souvenirs amoureux et à la frontière instable entre rêve, vision et folie. Poe y poursuit une conception exigeante de la poésie comme effet artistique calculé, où le son et la forme comptent autant que le sens immédiat. Le recueil permet donc de lire un poète distinct du maître de la nouvelle fantastique, tout en retrouvant ses obsessions essentielles. Il s'adresse autant aux lecteurs de poésie sombre qu'aux étudiants désireux d'observer comment la métrique, la répétition et le symbole construisent une atmosphère durable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la femme absente comme foyer du deuil poétique. Dans une grande partie des poèmes, l'amour est indissociable de la disparition. Annabel Lee, Le Nord, Ulalume, Le Dormeur ou À une en paradis font de la femme aimer une présence perdue, idéalisée et inaccessible. Il ne s'agit pas d'une simple matière autobiographique. Poe transforme le deuil en situation poétique récurrente. La voix qui parle ne parvient ni à accepter l'absence ni à rejoindre pleinement la disparue. Elle revient donc au même nom, au même lieu et aux mêmes questions, comme si le langage reproduisait le mouvement circulaire du chagrin. Dans Le Corbeau, la perte de Lénore n'est pas résolue par la visite de l'oiseau. Au contraire, chaque réponse répétée durcit l'enfermement mental du narrateur. Cette logique éclaire le caractère souvent excessif de la poésie de Poe. L'idéal amoureux y gagne une beauté presque sacrée, mais cette beauté dépend précisément de son éloignement définitif. La mort fige l'être aimé hors du temps et empêche toute relation réelle. Le lecteur est ainsi invité à distinguer la plainte personnelle d'une construction esthétique, la figure aimée devient un instrument de concentration émotionnelle, autour duquel se nouent désir, mémoire, culpabilité et désespoir. Cette persistance du deuil donne au recueil son unité la plus visible, malgré la diversité des formes et des dates de composition. Deuxièmement, le rythme et la répétition comme instrument de l'obsession, la singularité de Poe tient largement à son travail sonore. Rimes internes, allitérations, assonances, refrains et retours de vers ne décorent pas seulement le texte, ils imposent au lecteur une cadence qui mime l'insistance de la pensée. Le Corbeau est l'exemple le plus connu de cette méthode. Le mot « jamais plus » revient avec une régularité qui paraît d'abord mécanique, puis devient de plus en plus menaçante parce que le narrateur lui attribue des significations absolues. Les Cloches obtient un effet différent, la répétition accélère ou alourdit la lecture selon la matière sonore évoquée, des tintements légers aux alarmes et aux glas. Dans Ulalume, les reprises contribuent à une marche lente, hésitante, presque hypnotique. Cette écriture montre que la poésie de Poe doit idéalement être entendue autant que comprise. La musique crée une émotion avant même que chaque mot rare ou chaque allusion ne soit élucidée. Elle explique aussi une difficulté réelle de lecture. Particulièrement sensible en traduction, le sens littéral peut rester accessible tandis que les réseaux de sons, les maîtres et les échos sont modifiés. Lire à voix haute, comparer plusieurs passages et suivre les motifs répétés permet de mieux saisir le dispositif. Poe ne cherche pas la spontanéité conversationnelle. Il compose une parole artificielle et réglée, capable de faire ressentir l'obsession comme une contrainte physique. Troisièmement, des paysages irréels entre rêves, tombeaux et anéantissement, les lieux de Poe ne sont presque jamais de simples décors. Chambres nocturnes, rivages, tombeaux, forêts automnales, ciels obscurs et cités englouties matérialisent l'état intérieur de celui qui parle, dans Pays des rêves. L'espace semble échapper aux lois ordinaires, les abîmes, les formes funèbres et les visions sans limite produisent un monde qui peut être à la fois refuge et cauchemar. La cité dans la mer élargit ce procédé à une vision collective. La ville morte, immobile et vouée à l'engloutissement, ne décrit pas un lieu réaliste. Elle condense une imagination de la ruine et de la disparition totale. Le paysage donne ainsi une forme visible à l'angoisse. Cette fonction explique l'importance de l'eau, de la brume, de la nuit et des mouvements vertigineux dans le recueil. Ces éléments brouillent les limites entre matière, rêve et mort, sans offrir de certitude métaphysique consolante. Chez Poe, l'au-delà demeure moins une promesse qu'une région de mystère où la conscience risque de se dissoudre. Les références classiques et les noms mythologiques ajoutent une distance solennelle, mais ne stabilisent pas le sens. Ils font entrer l'expérience personnelle dans un théâtre imaginaire plus vaste. Le lecteur doit donc lire ces paysages comme des structures symboliques et sensorielles, non comme des récits à interpréter de façon strictement littérale. Quatrièmement, le romantisme de Poe détourné vers le gothique et la fragilité mentale, Poe appartient au romantisme par son goût de l'intensité émotionnelle, de la beauté idéale. de la nature transfigurée et de la subjectivité solitaire. Toutefois, ses poèmes déplacent ces éléments vers une tonalité plus inquiétante. L'individu romantique ne trouve pas dans la contemplation une harmonie avec le monde. Il se heurte à une mémoire douloureuse, à des signes ambigus et à son propre esprit. La solitude devient alors moins un retrait fécond qu'un isolement psychique. Des textes comme « Seul » ou « Le corbeau » mettent en scène cette difficulté à maintenir une relation stable avec autrui et avec le réel. La folie n'y est pas toujours affirmée comme un diagnostic, mais elle constitue une possibilité formelle, le discours se répète. Interprète tout comme un présage et se laisse capturer par des voix ou des apparitions. Cette orientation gothique distingue Poe de nombreuses poésies romantiques fondées sur l'élévation morale ou l'effusion naturelle. Même lorsque la beauté est célébrée, elle est distante, froide ou déjà menacée par la mort. À Hélène, par exemple, associe l'idéal esthétique à une figure inaccessible et presque statuaire. La tension entre aspiration vers le beau et expérience de la perte structure ainsi le recueille. Elle aide à comprendre pourquoi ces images sombres ne visent pas seulement l'effet macabre, elles interrogent les limites de la perception, du désir et de la maîtrise de soi. En dernier lieu, une poésie construite pour produire un effet plutôt que pour confesser, les poèmes gagnent à être lus comme un art de la composition. Poe fut également théoricien et critique, attentif aux effets du maître, de la diction et de l'unité émotionnelle. Sa pratique poétique confirme cette attention, les textes privilégient des motifs fortement organisés, des sonorités calculées et des figures reconnaissables plutôt qu'une confidence directe. Même quand le jeu paraît intensément personnel, il fonctionne souvent comme une voix dramatique placée dans une situation extrême. Cette distinction évite de réduire les poèmes à des documents sur la biographie de leur auteur. La douleur, l'amour ou l'isolement y sont travaillés afin d'atteindre une intensité esthétique précise. Les révisions auxquelles Poe a soumis plusieurs textes rappellent aussi que ses œuvres ne sont pas des élans bruts. Leur brièveté fréquente concentre les images et limite les détours narratifs. Leur forme plus développée organise la progression par la reprise et la modulation du son. Cette maîtrise peut rendre certains poèmes plus opaques pour un lecteur habitué à une poésie contemporaine plus directe. Les archaïsmes, les références savantes et le vocabulaire parfois rare demandent une lecture lente. Mais cette résistance fait partie de leur intérêt à analyser une strophe. Repérer les retours de mots et observer les variations de rythme révèlent comment le poème fabrique son climat. Chez Poe, la forme n'habille pas l'émotion. Elle en est le mécanisme principal. En conclusion, Poème conviendra particulièrement aux lecteurs attirés par le gothique, le romantisme noir et les œuvres où la musicalité porte une part essentielle du sens. Il constitue aussi un excellent terrain d'étude pour les étudiants en littérature. Les traducteurs et les personnes qui écrivent de la poésie chaque texte invitent à observer concrètement les liens entre refrain, rythme, image et intensité affective. Une première lecture peut privilégier les pièces les plus connues, telles que Le Corbeau, Annabel Lee ou Les Cloches, avant d'aborder les poèmes plus allusifs et plus obscurs. La lecture à voix haute est particulièrement utile, car elle restitue les effets de cadence qui risquent de passer au second plan dans une lecture silencieuse ou dans une traduction. Le recueil se distingue des autres anthologies poétiques gothiques par son extrême concentration formelle. Poe ne développe pas seulement des thèmes de deuil, de rêve et de mort, il fait de leur répétition sonore le moteur même de l'expérience. Là où une poésie élégiaque peut chercher l'apaisement ou la consolation, la sienne entretient souvent l'incertitude et laisse le sujet face à une perte irréversible. Son imaginaire est également plus abstrait et théâtral que strictement narratif, peuplé de figures idéales, de paysages mentaux et de signes ambigus. Cette alliance de précision technique, de mélancolie et de vision fantastique explique sa place durable dans la poésie moderne. Le livre offre moins des réponses sur la mort ou l'amour qu'une démonstration saisissante de la manière dont le langage peut donner une forme audible à l'obsession. Si vous souhaitez soutenir Edgar Allan Poe, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.